Bonsoir, je vous souhaite à toutes et à tous une bonne année 2020. Entrons ensemble dans le temps du débat, comme tous les soirs, du lundi au vendredi sur France Culture, entre 18h20 et 19h. À l'ordre du jour ce soir, enfin le Brexit. Depuis le vote du 12 décembre dernier qui a donné une large majorité au Premier ministre conservateur Boris Johnson, le Royaume-Uni se prépare à une sortie rapide de l'Union européenne. Boris Johnson espère en effet avoir bouclé l'ensemble des discussions d'ici à la fin de l'année 2020, mais beaucoup de spécialistes de diplomatie et de négociations européennes imaginent qu'après 47 ans d'Union, la séparation prendra plus d'un an. Est-on parti pour de longues et difficiles négociations sur les services financiers, sur la pêche ou encore sur l'immigration? La volonté du Premier ministre britannique, soutenue par son opinion publique, suffira-t-elle pour tenir ce calendrier? C'est ce dont nous allons discuter jusqu'à 19h avec nos quatre invités. Elvire Fabry, elle sera avec nous au téléphone. Elle est chercheure senior à l'Institut Jacques Delors. L'historien Robert Tons, professeur à Cambridge et co-directeur du site Briefing for Brexit, sera également avec nous depuis Cambridge. Catherine Mathieu est avec nous ici en studio à Paris. Elle est économiste à l'OFCE, spécialiste des questions européennes, et Denis Varanger, professeur de droit public à Paris 2.
The eyes to the right, 358. The nose to the left, 234.
The eyes to the right for 358. The nose to the left were 234, so the eyes have it, the eyes have it. Yeah!
Voilà, on vient d'entendre un extrait du vote de la Chambre des communes le 20 décembre dernier qui a approuvé l'accord de retrait de l'Union européenne. C'était un vote en seconde lecture. Après ce premier vote, un texte doit faire l'objet de débats plus détaillés à partir du 7 janvier prochain. Une adoption finale peut être espérée par le gouvernement dès le 9 janvier. Ensuite, l'assentiment de la reine reçu, eh bien, il ne restera plus qu'au Parlement européen de le ratifier, cet accord, pour que le Royaume-Uni puisse sortir de l'Union européenne le 31 janvier après 47 années. Mais néanmoins, on entend ici, et ça fait plaisir, parce qu'on a beaucoup aimé pendant toute cette année les discussions à la Chambre des communes, la façon dont on votait, tout cela, on entend ce vote, 358 voix pour, 234 voix contre. Catherine Mathieu, c'était un moment important ou c'était une sorte de ratification par la Chambre des communes de ce qui s'était décidé dans les urnes quelques jours plus tôt?
C'est un moment important parce que ces nombreux votes qu'il y a eu au Parlement britannique tout au long de l'année 2019 et qui à chaque fois aboutissaient à une non-décision, le rejet de tous les votes qui étaient proposés au Parlement britannique, que ce soit en faveur du Brexit, contre le Brexit, pour un nouveau référendum, tous les votes aboutissaient à chaque fois à une absence de décision. Et donc en fait, surtout ce qu'on constate aujourd'hui, c'est qu'avec le résultat de l'élection du 12 décembre et la très forte majorité que Boris Johnson a eue, 80 sièges, ce qui est vraiment quelque chose d'extrêmement élevé, aujourd'hui Boris Johnson peut espérer faire passer toutes les mesures qu'il souhaite, que ce soit d'ailleurs en matière de Brexit ou d'autres décisions.
Voici ce qui, d'une certaine façon, infirme vos analyses d'avant cette période. Denis Varanger, en tant que spécialiste de droit public, vous disiez il y avait tension entre la souveraineté et puis le Parlement, entre celui qui était censé incarner justement le Royaume-Uni, Boris Johnson, et puis un Parlement qui était rétif parfois à ses décisions. Là, ça s'est passé comme il le souhaitait, en tous les cas, Denis Varanger.
Non, je ne pense pas que ça infirme ce que je disais avant. Si vous voulez, il y a eu l'élection générale de décembre avec cette confortable majorité absolue pour le Parti conservateur. Elle a un immense mérite pour M. Johnson, c'est de lui donner une forte légitimité et de résoudre son problème avec le Parlement. Au Royaume-Uni, dans la Constitution...
Car il y avait problème avec le Parlement.
Il y avait problème, si vous voulez. Pourquoi ? Parce que le référendum de 2016 relatif au Brexit n'avait aucune valeur obligatoire. Il fallait ensuite que ce soit le Parlement qui prenne les décisions, parce qu'à cause des particularités de cette très spéciale constitution britannique, c'est le Parlement qui est souverain au Royaume-Uni. Le peuple n'avait rien décidé de spécifique, sinon une expression d'une opinion, en quelque sorte. Bon, il fallait faire ça. Donc il fallait notifier la sortie de l'Union européenne. Ça a été fait en mars 2017. Mais après, il faut une série de lois. Ces lois, comme ça a été expliqué par Catherine Mathieu, dans un premier temps, elles n'ont pas été votées parce qu'il y avait un hiatus entre les premiers ministres, spécialement Mme May et ensuite M. Johnson, et puis les majorités parlementaires, ou plutôt les absences de majorités parlementaires, un petit peu comme sous notre 4e République, il y avait plus de majorités négatives que de majorités positives. Maintenant, ce problème-là est résolu. La grande question, le grand point d'interrogation, c'est qu'il y a la décision sur Brexit qui a été prise, mais la manière dont on va s'y prendre, la mise en musique, elle est toujours pas très claire.
Robert Tonze, bonsoir.
Bonsoir.
Et bonne année, merci d'être avec nous au téléphone.
Merci, merci, et bonne année à vous tous.
Je rappelle que vous êtes professeur à Cambridge, que vous êtes un immense spécialiste de l'histoire française, mais également de l'histoire anglaise, et que vous êtes co-directeur d'un site qui s'appelait Briefing for Brexit, et qui a la particularité d'avoir mis sur son site depuis quelques jours que vous étiez satisfait, évidemment, du vote, puisque vous faisiez partie des Brexiteurs. On dit que vous êtes un Brexiteur de gauche, oui, voilà. Robert Tonze. Vous êtes satisfait de ce qui s'est passé, et que vous pouvez vous permettre de prendre une pause pour les fêtes, justement, parce que maintenant, ce vote étant accompli, vous considériez qu'il était temps de vous reposer un tout petit peu de ce combat que vous avez mené depuis plusieurs années. Robert Tonze, qu'est-ce que vous pensez justement de cette hypothèse de pouvoir sortir, comme on l'a promis Boris Johnson, d'ici à la fin de l'année 2020, dans un an exactement, donc de tout ce qui liait la Grande-Bretagne, le Royaume-Uni, à l'Union européenne?
Mais je pense que c'est clair que nous allons quitter l'Union européenne. Ça ne veut pas dire évidemment que nous allons couper tous nos contacts et tous les accords qui ont été faits entre le Royaume-Uni et l'Union européenne. Et c'est sûr qu'il y aura beaucoup de négociations encore à faire sur les détails. Mais je pense que c'est clairement le cas que maintenant la décision qui a été prise par l'électorat en 2016 va finalement être mise en exécution.
Et vous pensez que ce calendrier qui est présenté par Boris Johnson semble réaliste à vos yeux, c'est-à-dire que se dire que si le 31 janvier, eh bien, tout cela est acté, on aura 11 mois pour le Royaume-Uni pour négocier la sortie de l'Union européenne et que tout cela peut se faire en 11 mois, Robert Tonze?
Mais ça dépend ce qu'on veut exactement. Je pense que du côté britannique, avec ce gouvernement actuel, ce que nous voulons, c'est quelque chose d'assez simple, c'est-à-dire un accord commercial qui permet la libre-échange sans tarifs et sans quotas, sans beaucoup des complications que Mme May voulait essayer de négocier et que les Européens, dont les Européens se méfient parce qu'ils pensent que ça va risquer de faire toutes sortes de complications avec les autres membres qui vont tous demander une relation très spéciale et coupée sur mesure, si on veut. Mm-hmm. Et ce que nous voulons, je crois, maintenant, et ce que le gouvernement veut, c'est quelque chose d'assez simple. C'est de continuer d'échanger librement et les autres choses vont être négociées plus tard.
Elvire Fabry, bonsoir. Vous êtes avec nous au téléphone. Vous êtes chercheur senior à l'Institut Jacques Delors. Vous avez beaucoup travaillé longtemps à la Commission. Vous avez été également membre de la Fondation Robert Schuman. On peut donc dire que vous êtes une Européenne convaincue. Est-ce que vous pensez du côté de l'Europe que ce que vient d'affirmer Robert Tonze peut arriver rapidement, ou est-ce que vous êtes plutôt d'accord avec ce qui a été dit par Madame von der Leyen? C'était il y a quelques jours dans les Échos. Je suis très inquiète devant le peu de temps dont nous disposons, ou encore comme l'a dit Michel Barnier, nous ferons tout notre possible, même si nous ne pourrons pas tout réaliser, disait Michel Barnier, justement dans cette séparation pacifique entre le Royaume-Uni et l'Union européenne.
Écoutez, je suis un petit peu moins optimiste sur la faisabilité de la négociation d'un accord, en tout cas ne serait-ce que pour la partie commerciale, parce qu'il faut bien voir que là, ce que nous avons sur la table et ce qui doit être discuté, c'est d'abord le gros du dossier, c'est en effet les futures relations commerciales entre le Royaume-Uni et l'Union européenne, mais c'est aussi toute une série de questions autour qui concernent la circulation des personnes, nouvelles politiques migratoires, les questions de sécurité, les questions de coopération en matière d'éducation, de recherche. Le programme est énorme et les délais sont non seulement très courts, mais le problème que nous avions depuis 3 ans et demi, c'était en effet qu'une majorité se dégage à la Chambre des communes et dans l'opinion publique britannique véritablement sur le type de Brexit qu'ils voulaient avoir.
C'est
donc
fait.
Déjà définir les termes de la sortie, c'est fait. Mais maintenant, on n'a pas beaucoup de visibilité encore sur ne serait-ce que les premières orientations que va donner Boris Johnson à la négociation. Il va falloir attendre fin janvier pour avoir le mandat de négociation côté britannique et que les Européens eux-mêmes définissent leur mandat de négociation, les grandes lignes rouges d'une certaine façon. Et ça va être un véritable moment de vérité parce que pour le moment, d'une certaine façon, les Européens ont été quelque peu soulagés d'avoir ce vote, même de manière paradoxale, même si les Européens regrettent ce Brexit, mais d'avoir au moins ce vote majoritaire pour qu'on puisse avancer dans la négociation. Mmh. Mais on n'en est qu'au début du processus. Après 3 ans et demi, on a d'une certaine façon fait que le plus facile. Et la partie qui nous attend pour savoir quel type de relations nous allons établir risque d'être assez complexe parce qu'entre ce que vient de dire l'interlocuteur précédent en disant avoir un accord de libre-échange avec l'Union européenne, c'est faisable si on maintient un alignement réglementaire du Royaume-Uni sur les réglementations européennes. Mais à partir du moment où il commence à y avoir un début de divergence sur la réglementation, ça risque d'être tout de suite beaucoup plus complexe. Ouais.
Je vous propose d'écouter Boris Johnson. C'était hier, il faisait ses vœux aux Britanniques.
As we say goodbye to 2019,
alors que nous disons au revoir à 2019, nous pouvons aussi tourner la page des divisions, de la rancœur et de l'incertitude qui ont freiné le pays pendant bien trop longtemps. 2020 est devant nous et nous avons désormais une occasion formidable et unique de nous unir en tant que pays et d'avancer tous ensemble. Je veux vous dire que je vais travailler comme un dingue pour répondre à vos priorités et faire en sorte que cette année soit celle où nous libérons le potentiel britannique de ces chaînes. Évidemment, nous commençons dès ce mois-ci en mettant en œuvre le Brexit. Le 31, nous serons sortis de l'Union européenne, libres de tracer notre propre route en tant que nation souveraine. Retrouver le contrôle de notre monnaie, de nos lois, de nos frontières, de notre commerce. Avec ce socle, nous allons assurément restaurer la confiance pour le peuple et le business et débloquer un raz-de-marée d'investissement. Et ce n'est qu'un début.
Robert Holmes, vous disiez en certains articles que vous avez donnés juste avant le vote du 12 décembre que vous pouviez imaginer qu'il y aurait une sorte de nouvel âge d'or, c'est ce que promet d'ailleurs Boris Johnson, un nouvel âge d'or pour le pays, que pour une fois depuis le 17e siècle, vous seriez libéré de toutes les tutelles que vous aviez pu avoir, l'Empire, mais également depuis un certain temps l'Europe. Est-ce que vous croyez véritablement que c'est une libération pour le Royaume-Uni?
Je pense qu'on sortait de l'âge des empires, et dans le sens que pour nous, et maintenant on va un peu dans l'histoire jusqu'aux années 1960-70, pour l'Angleterre, ou au moins pour les dirigeants du Royaume-Uni, l'Union européenne était toujours une sorte de substitut pour l'empire que nous avons perdu ou que nous étions en train de libérer.
Et vous dites d'ailleurs que c'est aussi le cas pour la France, oui, c'est ça. Vous dites aussi que c'est le cas pour la France, que cette Europe sert de substitut aussi.
Oui, je pense que la France et l'Angleterre ont suivi un cours très semblable, que pour nos deux pays, l'Europe, l'intégration de l'Europe était une sorte de socle pour notre position mondiale. Alors, je pense que pour nous, maintenant, cette période où on manquait de confiance, où on croyait que notre vie politique, notre vie économique était affaiblie par la perte d'empire est finie. Et donc, c'est dans ce sens-là que je voulais dire que nous avions, je crois, et la confiance de quitter un système qui ne semble plus nous apporter beaucoup de choses.
Ouais, Catherine Mathieu, vous êtes d'accord avec cette analyse de l'historien Robert Holmes, justement Brexiteur de gauche?
Je pense qu'effectivement, l'analyse est celle qui est faite par une majorité de Britanniques aujourd'hui. Ensuite, je suis un peu plus inquiète pour nos amis britanniques si on regarde un peu les positions...
Je rappelle que vous êtes économiste à l'OSCE et spécialiste des questions européennes.
Oui, et en fait, on voit bien, d'ailleurs, comme Elvire Fabry le rappelait tout à l'heure, on a du côté de l'Union européenne déjà besoin, enfin, on va mettre en place des lignes rouges, on va prendre du temps pour négocier. C'est déjà ce qui s'est passé depuis plus de 3 ans. Hein. Le Royaume-Uni a voté pour sortir de l'Union européenne en juin 2016, et peu de temps après, en fait, l'Union européenne déjà mettait tout un séquençage sur les négociations qui a ralenti le processus de sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne. Et j'ai un peu la crainte pour les Britanniques aujourd'hui que l'Union européenne procède de la même façon dans les mois qui viennent et dise à Boris Johnson, non mais ça n'est pas si simple que cela de sortir de l'Union européenne. Certes, vous souhaitez, les Britanniques, négocier un accord de libre-échange, mais il y a effectivement la question des normes à respecter, la question des réglementations. Et puis, il y aura un certain nombre de sujets qui vont arriver très rapidement sur la table, dont la question de la pêche, dont la question des services financiers. Et ces questions-là devront être déjà très avancées dans les négociations selon les calendriers actuels d'ici juin 2020. Donc ça veut dire que ça laisse très très peu de temps à Boris Johnson pour arriver à négocier avec l'Union européenne, et je crains que début février, il se retrouve face à une organisation très précise, très bien faite du côté de l'Union européenne qui ralentisse le calendrier des négociations que souhaiterait Boris Johnson.
Mais qui puisse exciter d'une certaine façon tous ceux qui disent l'Union européenne nous empêche de sortir d'une certaine façon, et donc faire que l'opinion publique soit encore plus brexiteuse qu'elle ne l'est encore aujourd'hui.
C'est bien possible, mais pour les investisseurs, pour les acteurs économiques, la question de l'incertitude est très importante, et aujourd'hui, on voit bien que les marchés financiers se disent, bon, en fait, là, le Royaume-Uni sort de l'Union européenne. La livre, maintenant, a retrouvé un niveau plutôt élevé par rapport à l'euro, 1,18 euros. Bon, tout a l'air de bien se passer du côté britannique. Et comme on l'entendait dans les discours de vœux de Boris Johnson, il y a le souhait de déclencher un raz-de-marée d'investissement vers le Royaume-Uni. Mais ça suppose, la stratégie de Boris Johnson pour réussir, suppose qu'effectivement, il arrive à avancer suffisamment vite dans les négociations.
Denis Maranger, vous êtes spécialiste de droit public. Il y a aussi une autre donnée, c'est la façon dont on peut tenir ensemble cet ensemble du Royaume-Uni, une fois ce Brexit en train de se mettre en place, l'Écosse d'un côté, l'Irlande du Nord de l'autre, les relations avec le Parlement dont on a dit tout à l'heure qu'elle s'était un peu arrangée depuis le vote du 12 décembre. Tout cela, ça n'est pas évident, cet montage institutionnel d'une certaine façon peut être mis en difficulté pendant toute cette année 2020.
Oui. Avant ça, si vous permettez, je voudrais réagir sur une chose. Le thème, le slogan du Brexit, c'était « Take back control », c'est « Regagner la souveraineté ». Ça a fonctionné, c'est un petit peu le vent de l'histoire contemporaine, ou le cours de l'histoire contemporaine, et M. Johnson et sa confortable majorité ont été élus sur cette base-là. Le paradoxe qui rend un petit peu sceptique par rapport à cette évolution favorable du Brexit qui a été esquissée, c'est que il y a, chez M. Johnson et chez les conservateurs qui sont au pouvoir, un élément que j'appellerais de protectionnisme constitutionnel ou de protectionnisme politique. Ils veulent être souverains, ils veulent la souveraineté pour la Grande-Bretagne, mais en même temps de s'ouvrir au grand large économiquement, du libre-échange. Est-ce que ça peut vraiment fonctionner? Est-ce que la souveraineté nationale classique, disons, du 19e siècle, c'est le bon niveau de coordination des politiques économiques, de relations avec le monde extérieur? Il y a un énorme point d'interrogation. Alors, votre seconde question, c'était sur la...
Le montage institutionnel, pour être
clair. Le montage institutionnel, il n'est pas extrêmement simple. Déjà, avant le montage, il y a un démontage. C'est qu'il faut sortir de l'Union européenne. Il y a une chose que le technicien du droit doit dire, c'est que tout ça, c'est fait sur base de loi. Ce n'est pas une constitution écrite, c'est fait sur base de loi. Il y a une loi en 1972 pour rentrer... non, c'était pas l'Union européenne, mais la CE. Il faut maintenant toute une série de lois pour en ressortir. Quand M. Johnson dit maintenant qu'il va se lier les mains, par exemple, en permettant pas qu'il y ait de nouvelles extensions, c'est pas vrai. Une loi peut défaire demain ce qui a été refait hier. Pour la question de la structure, je dirais, de la totalité de la Grande-Bretagne, il y a énormément de problèmes au fringe, sur les marges. Le SNP a été le grand gagnant.
Donc c'est le grand parti écossais.
Le parti nationaliste écossais a été le grand gagnant pour les élections de députés à Westminster, mais députés écossais. Le parti unioniste, le DUP, le parti unioniste nord-irlandais, qui était dans la précédente coalition avec Mme May, a voté majoritairement contre le Withdrawal Agreement Bill. La question du back, oui, excusez-moi, la question du backstop, c'est-à-dire de comment est-ce qu'on évite qu'il y ait une frontière physique entre l'Irlande du Nord et la République d'Irlande. À mon avis, ça a été le grand succès de Johnson. Le grand succès de Johnson, ça a été d'obtenir le retrait dans le protocole d'accord avec l'Union européenne de cette idée du backstop, parce que ça bloquait toute négociation ultérieure. Mais enfin, gérer maintenant cette sorte de micro-empire qu'est le Royaume-Uni, ça va être extrêmement délicat. Je ne sais pas si M. Johnson a toutes les clés.
Always look on the bright side of life. Always look on the light side of life. If life seems jolly rotten, there's something you've forgotten. And that's to laugh and smile and dance and sing.
France Culture.
When you're feeling in the dumps, don't be silly chumps. Just purse your lips and whistle, that's the thing. And always look on the bright side of life.
Le temps du débat.
Always look on the bright side of life.
Emmanuel Laurentin.
Ce titre des Monty Python dans la vie de Brian, regardons toujours le bon côté de la vie. Ça n'est pas simplement parce que nous sommes des proches de Boris Johnson, ce qui n'est pas le cas, mais aussi parce que dimanche dernier est décédé celui qu'on appelait le septième Monty Python, Neil Innes, qui avait inventé pour ce titre en particulier le sifflement de tous ceux qui étaient pendus aux croix, donc autour de Brian. Robert Toms, vous êtes vous aussi donc optimiste désormais. Vous pensez que tout cela est plus simple. Est-ce que vous voyez néanmoins dans ce calendrier, dans ces points qui ont été abordés par les autres participants à ce débat, des difficultés, que ce soit du côté économique, les négociations sur la pêche, la question de l'abandon de la PAC sur 7 ans, le contrôle de l'immigration, ou encore du côté institutionnel, comme ça vient d'être décrit par donc notre invité sur la question du droit public?
Mais disons que toutes sortes de complexités existent encore, ça je suis évidemment d'accord. Le gouvernement actuel a beaucoup plus de confiance que le gouvernement de May. Il est clair que Madame May pensait que sortir de l'Union européenne était une très mauvaise idée, donc elle essaie de la ralentir et le minimiser autant que possible. Donc je pense qu'il y a un changement d'attitude. Mais de ma part, ce que j'avais commencé à craindre, c'était plutôt qu'on aura une énorme crise constitutionnelle et politique qui était même plus importante que la question si oui ou non on sortira du Customs Union, du marché unique, etc. Que nous avions le pays avait le danger de voir sa système démocratique complètement mis en morceaux. Et donc pour moi, la grande crise est passée. Ce qui reste maintenant, ce sont des détails, si on veut, des détails très importants, mais des choses qu'on peut et qu'on va négocier.
Oui, et de ce côté-là, on peut dire, Elvire Fabry, qu'il y a aussi la puissance de la volonté d'un Premier ministre, qu'il y a derrière lui une population qui le soutient momentanément, qu'il y a aussi une détestation, ou du moins d'une partie de la population, des instances européennes. Qu'est-ce que vous pensez justement de cette conjoncture et de ce qui est très particulier aussi dans le programme de Boris Johnson, c'est ces investissements massifs qu'il veut faire, l'augmentation du SMIC, des grands travaux, tout cela qui, d'une certaine façon, laisse entendre que on a tenu les mains de la Grande-Bretagne tant qu'elle était en Europe et que, désormais qu'elle ne l'est plus, elle pourrait agir pour, justement, plus de justice sociale, plus d'égalité, plus d'investissement.
Je crois qu'il y a deux choses. Il y a, d'une part, la façon dont Boris Johnson a réussi à reconquérir une partie de l'électorat du Labour, à la fois ceux qui voulaient sortir de l'Union européenne, puisqu'on sait que dans le Labour il y a ces deux composantes, il y a ceux qui voulaient rester dans l'Union européenne, ceux qui voulaient en sortir, et que l'ambiguïté d'un Jeremy Corbyn sur le Brexit lui-même a fait qu'ils ont préféré se tourner vers le Parti conservateur, et que le Parti conservateur a aussi séduit une classe ouvrière qui s'était détournée progressivement du Labour. Qui avait évolué vers une approche plus pro-immigration, pro-Union européenne, avec des positions plus libérales, et qui s'est davantage reconnu dans le discours d'un Boris Johnson
plus interventionniste, voulant investir lourdement, également comme Jeremy Corbyn, mais dans le système de santé du NHS, dans les grandes infrastructures, prenant toute une série de mesures, en effet, avec une approche un peu plus sociale, et avec sur fond de discours de reprise, en effet, de l'indépendance britannique. Donc c'est vrai que tout ce discours redonne une certaine impulsion à la direction de Boris Johnson de donner dans les négociations. Cette reprise de contrôle, elle est dirigée à la fois vis-à-vis de l'Union européenne et plus largement vis-à-vis de la mondialisation. Mmh. Et c'est là où il y a une certaine ambiguïté dans le discours des Brexiteurs, c'est que on a ceux qui veulent à la fois sortir de l'Union européenne, mais pour avoir une politique libérale plus offensive et des négociations très offensives avec d'autres pays tiers dans le monde, et y compris avec les États-Unis. Et puis ceux qui voulaient sortir de l'Union européenne pour sortir de la libre circulation des personnes, sortir de du commerce international et finalement revenir un peu plus à l'échelle d'un Royaume-Uni souverain et qui rappelle un peu plus le Royaume-Uni des années 60. Et là, il va falloir encore que Boris Johnson parvienne à réconcilier ces deux tendances. Et encore une fois, ouais, dans les négociations à venir, il va falloir trouver un équilibre entre s'éloigner de l'Union européenne et le coût économique que ça va représenter à court terme pour l'économie britannique et du coup aussi également moins de moyens à court terme pour financer toutes les promesses d'investissement qu'a fait Boris Johnson pendant sa campagne.
Catherine Mathieu, vous croyez à cette injonction de 33,9 milliards de livres dans le système de santé, de 100 milliards de livres dans les grands chantiers comme le train rapide qui conduirait vers le nord-est de l'Angleterre, et également l'augmentation du SMIC, du SMIC anglais, ça a déjà été annoncé il y a quelques jours par Boris Johnson soi-même. Tout cela, ça fait partie, le renforcement des droits des locataires, de quelque chose qui pourrait apparaître comme un plan travailliste, un plan de gauche d'une certaine façon.
Oui, c'est vrai qu'il y a un peu un paradoxe dans la position des conservateurs. On a vu à partir du début des années 80, avec l'arrivée de Margaret Thatcher, se mettre en place de nombreuses mesures de baisse de dépenses en infrastructures publiques, et y compris dans ce qui concerne le système de santé britannique, public auquel les Britanniques sont très attachés. Et depuis des années, en fait, les conservateurs ont perdu lors des élections, principalement sur ces questions de services de santé britanniques. Et Theresa May et plus encore Boris Johnson se sont rendus compte qu'il fallait prendre en compte cette demande des Britanniques d'avoir davantage de services de santé public en particulier, mais aussi d'infrastructures. Le nord de l'Angleterre reste aujourd'hui une région qui se porte beaucoup moins bien que le reste du Royaume-Uni. C'est là aussi que traditionnellement on vote travailliste. C'est vraiment la vieille industrie, la ceinture rouge britannique. Et l'intelligence de Boris Johnson a été dans cette campagne de dire que les conservateurs, s'ils étaient élus, effectivement mettraient davantage moyens dans le système de santé britannique. C'est déjà ce qu'il avait dit d'ailleurs en 2016 dans la campagne sur le référendum pour la sortie de l'Union européenne. Et je pense qu'effectivement, c'est crédible parce que tous les partis politiques britanniques voient bien qu'il y a des besoins importants, que ce soit en matière de système de santé, de sécurité, d'infrastructure. Et dans la campagne des législatives, c'était en fait Boris Johnson qui annonçait le moins de dépenses par rapport aux libéraux-démocrates et aux partis travaillistes. Et il a été largement élu, notamment sur les terres travaillistes de la ceinture rouge, sur ces éléments, en disant on va désenclaver le Nord, on va construire des voies rapides, on va mettre davantage de moyens dans les systèmes de santé publique, et je pense qu'il le fera. Et effectivement, aujourd'hui, il me semble que l'économie britannique peut assurer ce genre de dépenses. On a un déficit public qui est de moins de 2% du produit intérieur brut, on a une dette publique qui est de 80%, 4% du produit intérieur brut. Donc, ce ne sont pas, ce sont des, il n'y a pas de problème qui empêcherait à très court terme l'économie britannique d'avoir davantage d'investissements publics. Et Boris Johnson peut compter sur ces investissements justement pour soutenir l'économie britannique si dans les prochains mois la situation n'était pas aussi favorable que ça en matière de négociation. Et pour le point sur le salaire minimum que vous évoquiez à l'instant, en fait, ça n'est pas une décision de Boris Johnson, hein, c'est une commission indépendante qui est nommée et qui doit proposer des augmentations de salaire minimum.
Plus de 6% là, tout de même.
Plus de 6% cette année, mais d'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est que le Royaume-Uni s'est engagé depuis 2015 avec Theresa May dans une montée importante du salaire minimum au Royaume-Uni en donnant comme objectif à cette commission indépendante de faire rejoindre le salaire minimum au niveau de 60% du salaire médian. Donc ça, c'est la proposition que la France a fait depuis de nombreuses années dans l'Union européenne. Et plus encore, donc 60%, ce chiffre va être atteint en 2020 avec l'augmentation de 6% qui a été annoncée hier. Et de plus, le gouvernement actuel demande à la commission indépendante de faire monter ce salaire à 66% du salaire médian d'ici 2024. Donc il y a vraiment une stratégie des conservateurs qui là aussi est assez paradoxale, de faire augmenter le salaire minimum et de mettre fin à un travail très peu rémunéré.
Tout en effectivement tentant de contrôler l'immigration, ce qui sera peut-être plus difficile parce qu'il y aura peut-être plus de gens encore qui voudront venir en Grande-Bretagne.
Oui, mais dans cette stratégie de l'immigration, là aussi les conservateurs ont une stratégie de mettre en place un système d'immigration par points et de favoriser l'entrée de travailleurs comme l'Australie qualifiés avec des niveaux de salaire relativement élevés.
Denis Barranger, sur tous ces points.
Alors, si vous voulez, on va sortir de l'Union européenne. La décision politique du Brexit, elle est prise, elle a été ratifiée par l'électorat. Il y a quelque chose d'un peu plus délicat, c'est de sortir du cadre juridique, c'est-à-dire du droit de l'Union européenne. L'Union européenne, c'était pas fait pour qu'on en sorte. La possibilité de l'article 50, c'est-à-dire d'un retrait, a été rajoutée tardivement. C'est un dispositif qui a été fait sans marche arrière, comme a dit un des fondateurs de la CE. Il a été compté par l'agence Reuters en 2017 qu'il y avait 57 000 mesures, c'est-à-dire des règlements et des directives, 57 000 mesures de droit de l'Union européenne qui s'appliquaient au Royaume-Uni depuis 1990. Ça, on ne va pas revenir dessus. Je pense que c'est quelque chose qui peut peut-être calmer un petit peu les ardeurs des Brexiteers ou donner à penser, comme on me le dit moi au Royaume-Uni, que ça va prendre une génération si on veut vraiment en sortir. Ça ne va pas prendre un an pour renégocier un quelconque accord, mais véritablement une génération, si on veut revenir sur tout ça, c'est que les dizaines de milliers de lois, de règlements, de différentes décisions administratives qui seront nécessaires pour complètement retirer la strate du cadre juridique de l'Union européenne, ça va être très long. En réalité, c'est pas ça qui est en train d'être fait. Ce qui a été fait en 2018, c'est qu'on a incorporé en droit anglais toute cette énorme machinerie de l'Union européenne. Moi, j'ai presque tendance à dire qu'en réalité, on ne sort pas de l'Union européenne. On en sort politiquement. Le Royaume-Uni restera un grand voisin, un partenaire important. Mais plus le Royaume-Uni voudra des frictionless trade, c'est-à-dire des rapports économiques sans friction, c'est-à-dire que la chaîne de production économique fonctionne de manière la plus flexible possible, plus ils auront besoin de garder les politiques de l'Union européenne, de garder le droit de l'Union européenne. Je pense que c'est peut-être un petit peu de nature à modérer les ardeurs des défenseurs du Brexit.
Est-ce que ça modère vos ardeurs, Robert Toms, vous qui avez parlé de révolution pacifique dans un article que vous avez publié avant le 12 décembre, ce qui était en train de se passer, pour vous, c'était une révolution pacifique avec des ambiguïtés tout de même, parce que ce qui était pointé du doigt tout à l'heure par Elvire Fabry, à savoir ne pas vouloir être avec les autres pays de l'Europe, mais en même temps s'ouvrir à la mondialisation, avoir une capitale qui était une grande capitale financière mondiale, sinon la plus grande capitale financière mondiale, évidemment, c'est assez paradoxal pour un pays qui veut recouvrer sa propre souveraineté, par exemple.
Mais une chose que je dirais, c'est que ce n'est pas simplement l'Union européenne comme elle est maintenant, dont on va sortir. C'est dans un sens l'Union européenne comme elle va évoluer dans les années à venir, que nous ne voulons pas, dont nous voulons pas faire partir. Donc, si M. Macron a raison et que l'Union européenne, pour se sauver, doit aller beaucoup plus vers le fédéralisme et le contrôle central, C'est ça que nous ne voulons pas faire et c'est ça que nous n'allons pas être obligés de suivre. Donc c'est ça l'important. Même si on reste à l'époque, à l'état où nous sommes maintenant, au moins pour un certain temps, en adoptant toutes les lois européennes qui existent encore, ça veut dire que nous n'accepterons plus les lois européennes à
nouvelles,
venir.
C'est ça. Et, les nouvelles lois européennes, vous les accepterez plus, c'est ça?
Oui, c'est ça.
Et ça veut dire aussi que néanmoins, vous pointiez du doigt, comme beaucoup de Brexiteurs, cette idée qu'il y avait des élites nationales qui tiraient leur légitimité de la volonté du peuple, la volonté des majoritaires, et des élites transnationales en Grande-Bretagne, disiez-vous, qui tiraient leur légitimité de leurs multiples liens avec l'Union européenne. Ces élites transnationales, elles seront encore sur le territoire britannique, elles seront encore à la City, elles seront encore dans tous les lieux de pouvoir de cette Grande-Bretagne nouvelle.
Oui, mais ils vont être obligés de s'adapter. Vous allez voir, les lobbies, les groupes de pression, surtout dans le commerce, ne vont pas continuer à regarder vers Bruxelles, parce qu'ils savent que ce lien-là n'existera plus. Donc je pense que nous avons déjà vu beaucoup de changements de ton dans les représentants du business. Mm-hmm. La Banque d'Angleterre, le CBI vont dire bientôt, bon, nous allons accepter le nouvel état des choses et nous allons changer notre attitude et nos méthodes. Après tout, il faut pas oublier que depuis une vingtaine d'années, la Grande-Bretagne, du point de vue économique et commercial, est en train de quitter l'Union européenne parce que la proportion de notre commerce extérieur avec l'Union européenne diminue et la proportion avec le reste du monde, évidemment, augmente. Et si nous continuons sur ce chemin, l'Union européenne va devenir de moins en moins important.
Ouais. C'est donc une pierre dans le jardin d'Elvire Fabry. Vous qui êtes spécialiste de l'Europe, qu'est-ce que vous en pensez?
Écoutez, ce qui est intéressant, c'est de remettre le Brexit dans le contexte de 2020. Parce que le Brexit qui a été voté en 2016 a été voté dans un contexte géopolitique très différent de celui auquel on fait face en 2020. Et actuellement, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'on a affaire à un contexte international de fortes turbulences, de guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine. Mmh. D'affrontements, de grands enjeux d'innovation technologique, d'intelligence artificielle et on voit que tous les débats actuellement dans l'Union européenne au sein de la nouvelle commission sont des débats qui tournent autour des enjeux d'autonomie stratégique. Mmh. Et comment mutualiser les moyens des Européens pour essayer de ne pas perdre pied par rapport à notamment l'avance technologique chinoise et évidemment américaine. Alors, quel va être le position, quelle peut être la stratégie du Royaume-Uni dans ce contexte-là? Parce que le take back control, il est beaucoup plus complexe aujourd'hui dans ce contexte. Le Royaume-Uni est aujourd'hui structurellement très dépendant du marché unique, notamment en matière de services. Et on sait que, pour ce qui concerne les services, la proximité géographique reste très importante jusqu'à aujourd'hui. Mmh. Donc la façon dont le Royaume-Uni peut compenser un moindre accès au marché européen vers d'autres marchés dans le monde est déjà un problème structurel en soi. Et je suis d'accord avec Denis Barranger qu'il va y avoir tout un détricotage juridique qui va être très très complexe et qui va prendre du temps encore, mais il faut quand même partir du principe que là, nous entrons dans une période de transition où nous allons négocier les futures relations, mais de pays tiers à Union européenne. C'est-à-dire que on n'en est plus là, les formalités, je dirais que le Brexit va avoir lieu là, fin janvier. Ensuite, c'est une négociation entre un pays tiers et l'UE 27. Donc c'est de l'extérieur, on va voir quel est l'accès que le Royaume-Uni veut garder ou pas avec l'Union européenne, mais il ne s'agit plus de s'extraire de l'Union européenne.
Merci beaucoup. Merci beaucoup Elvire Fabré. Un tout dernier mot, Catherine Mathieu, très brièvement, justement, sur ces possibilités qui
Je pense que ce que va essayer de garantir Boris Johnson, c'est un accès facile au marché européen. Et les Britanniques ont toujours été pour faire partie d'un grand marché de libre-échange en ayant repris le contrôle sur certains éléments, en particulier sur les questions de migration.
Merci à tous les quatre. Merci à vous, Robert Tonze. Merci, Denis Barranger. Merci à vous, Elvire Fabry, d'avoir été au téléphone avec nous. Ainsi qu'à vous, Catherine Mathieu, d'avoir débattu de cette question du Brexit en ce premier jour de l'année 2020. C'était le temps du débat. Chloé Cambrelin, Fanny Richer, Hugo Boursier, Rémi Vaille et Louise André à la technique. Aujourd'hui avec nous, Jean-Frédéric et à la réalisation, Alexandre Manzanares. À l'ordre du jour demain, qu'est-ce que la notion d'emprise apporte à la compréhension des violences faites aux femmes ?